utile à tout, à celui qui est fidèle à Dieu. La vie est promise pour maintenant et pour plus tard.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Seul sur terre, et j'ai un téléphone qui fait de la lumière. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune, car après tout, on peut se nourrir d'espoir. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. J'ai acheté un chien comme l'année dernière. Ma veste se démode, je la laisse à l'abbé Pierre. J'ai mangé mon assiette, j'ai remis le couvert. J'ai goûté au futur, il a un goût amer. On a mangé le soleil.
Yeah.
avalé les pépins, j'ai dévoré l'ennui, mais j'ai encore faim. J'ai léché les trottoirs, la faim jusqu'à la fin. J'ai voulu arrêter, mais je me suis bouffé les mains. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune.
C'est face sur Phare FM, on a mangé le soleil, 4h06, bienvenue sur la radio Autrement ce lundi 16 juin. Je vous souhaite un beau réveil et une excellente journée. Votre programme pour agrémenter votre réveil tout à l'heure, on va entendre Bertrand Huetz dans Pain de vie et puis bien sûr Hommes et Femmes, Mode d'emploi et puis de la musique de Benjaren, Stand Strong, c'est tout de suite. Je vous souhaite encore une excellente journée à l'écoute de la radio Autrement. À tout à l'heure.
Minuit 5h.
La nuit Autrement.
Avec Mireille.
Maintenant, votre message Pain de vie avec le pasteur Bertrand Huetz.
Le titre de mon message, c'est « Dieu cherche des ouvriers ». Et j'aimerais qu'on lise ensemble Matthieu chapitre 9, verset 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Quand on lit des passages comme ça, normalement on devrait sauter de joie. Parce que Jésus dit dans sa parole qu'il est le même aujourd'hui. Et que eh bien, ceux dont bénéficiaient les malades alors que Jésus était présent, eh bien, ils peuvent en bénéficier aujourd'hui parce que Jésus n'a pas changé. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, voilà la demande du maître, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous voulez tous être, ou pour la plupart en tout cas, être des ouvriers pour le Seigneur. Alors j'aimerais voir avec vous trois clauses du contrat d'ouvrier que j'aimerais sortir ou citer au travers de ce texte de Matthieu chapitre 9 que nous venons de lire. La première des clauses, c'est que vous allez, lorsque vous vous engagez comme ouvrier pour le Seigneur, déplaire au diable et à mon avis, il va vous le montrer. Ça, c'est la première clause. Et j'aimerais qu'avant que nous nous engagions pour devenir des ouvriers du Seigneur, nous ayons conscience que le mandat pour lequel Dieu nous appelle, c'est en tant qu'ouvrier d'être là pour chercher les âmes perdues et en particulier pour dépouiller l'enfer afin de repeupler dans le royaume de Dieu. Mais voyez-vous, je crois que quand on devient, puis-je dire, dépouillateur d'enfer, eh bien on bouscule le diable. Et automatiquement, quand on le bouscule, eh bien, il nous le fait ressentir. Je partageais hier aux étudiants de Jean-Marie Ribet ce texte qui se trouve dans le livre de l'Exode. Il s'agit du mandat de Dieu pour Moïse. Et voilà ce qu'il est dit dans Exode chapitre 3, verset 22, le mandat de Dieu pour Moïse, il est dit, vous dépouillerez l'Égypte. Mais lorsque vous lisez 251 versets plus tard, 9 chapitres et 10 fléaux plus tard, le texte que Dieu nous donne dans Exode, chapitre 12, verset 36, il est dit là, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Autrement dit, Dieu a donné un mandat à Moïse, celui de dépouiller les Égyptiens, non pas seulement des biens qui appartenaient au peuple d'Israël afin qu'ils partent avec, mais également de tout le peuple lui-même afin qu'ils partent et qu'ils partent en direction de la terre de Canaan. Eh bien, ce que Dieu a déclaré, il l'a accompli. Mais entre le moment où Dieu l'a déclaré et le moment où Dieu l'a accompli, vous êtes d'accord avec moi que durant ces 251 versets, tout n'a pas été toujours facile. Dans le texte de Matthieu, lorsque nous allons un peu plus loin, dans Matthieu 10, au verset 16, alors que Jésus demande à ses disciples de prier afin que se lèvent des ouvriers, voilà que lui-même envoie les 12 apôtres et qu'il leur laisse un mandat, il leur donne quelques conseils. Il y a un de ses conseils qui dit dans Matthieu chapitre 10, verset 16, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Quel est le rôle d'un loup au milieu des brebis? C'est de les manger. Autrement dit, être envoyé comme une brebis lorsqu'il y a des loups n'est pas forcément un mandat qui est très intéressant, n'est-ce pas? Pourtant, Dieu nous dit que nous n'avons pas dans Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 13, à lutter contre la chair et le sang, mais nous devons lutter contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, dit Jésus, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Oui, devenir ouvrier du Seigneur, c'est également dire que nous allons rencontrer des difficultés. C'est également dire que lorsque nous devenons efficaces entre la main de ce divin patron, eh bien nous allons voir en face de nous un diable qui rugit et qui essaiera de nous empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu. Mais en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et j'aime dans ce texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 28, je le partageais également hier. On dit que la parole de Dieu est une nourriture céleste, vous le croyez? Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, elle nourrit votre âme et elle vous fait du bien. Eh bien, j'ai trouvé un excellent hamburger dans la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 28, voilà la mission à laquelle Dieu appelle ses ouvriers. Matthieu chapitre 28, vous connaissez tous ce passage, au verset 19, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça, c'est le steak dans le hamburger. Mais dans ce steak-là, ou en tout cas, ce qui entoure ce steak, c'est le pain du dessus et le pain du dessous. Voilà le pain du dessus qui se trouve dans Matthieu 28, au verset 18, juste avant que Jésus ne nous dise d'aller, à nous qui sommes ses disciples. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Autrement dit, premièrement, s'il nous envoie, il nous délègue ses pouvoirs pour que nous ne soyons pas démunis et pour que, lorsque nous allons prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, alors que nous rencontrons ce diable qui rugit, nous ayons de sa part l'autorité, de sa part l'armure, qui nous permet de combattre le bon combat de la foi. Amen. Et de ne pas être apeuré par l'ennemi. Et puis le deuxième pain, celui qui se trouve en dessous, il est juste au verset suivant du chapitre 28 de Matthieu. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Autrement dit, Dieu qui nous envoie ne nous délaisse pas. Il nous accompagne toujours et toujours encore. Alors quand je parle des combats que nous devons mener avec celui qui essaye de détruire l'œuvre de Dieu, je ne parle évidemment pas des combats qui se trouvent dans la chair et qu'il nous faut gagner en muselant notre chair. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais voulez-vous, pendant quelques phrases de quelques textes que j'ai tirés de la parole de Dieu, entendre de quelle manière le diable rugit et écouter quel est le bruit que fait l'enfer lorsqu'il rugit? J'ai pris deux textes, Hébreux chapitre 11, versets 36 à 37, des ouvriers du Seigneur, appelés également héros de la foi. Voilà ce qu'il est dit d'eux. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Étaient-ils moins ouvriers que ces héros de la foi de qui l'on dit juste avant tant de bien et qui ont eu tant de victoires? Certainement pas. Et puis laissez-moi parler d'un de ses ouvriers fidèles, travaillant pour le divin patron. Il s'appelle Paul et fut pour chacun de nous un exemple merveilleux. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 24 à 30, voilà de quelle manière, dit-il, l'enfer a rugi face à un homme fidèle aimant servir le Seigneur. 5 fois, j'ai reçu, dit-il, des Juifs 40 coups moins un. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises, qui, à l'image de ce qu'il est dit de ses ouvriers, pourrait encore lever la main, conscient que, oui, Dieu souhaite nous permettre de vivre de grandes bénédictions. Et oui, ce qu'il promet, il l'accomplit, il sera toujours avec nous. Néanmoins, n'était-il pas avec ses héros de la foi? N'était-il pas avec Paul, qui lui est resté fidèle au Seigneur? Mais le diable sait souvent de quelle manière essayer de nous déstabiliser. Voyez-vous, en général, lorsque je pars dans les camps ou dans les colos, j'ai une question qui me vient intérieure malgré moi et qui dit, je me demande cette fois-ci à quelle sauce le diable va essayer de nous manger. Je me rappelle de cet épisode, je ne rentrerai pas dans les détails, où lorsque nous sommes un jour partis en week-end, eh bien nous avons, alors que le bus qui montait dans le lieu où nous les accueillons, dans les Vosges, a commencé à brûler, nous avons juste eu le temps de faire évacuer les 42 personnes, enfants, qui se trouvaient dans le bus avant que celui-ci n'explose. Et le lendemain, les grands titres dans les journaux, 42 miraculés. Et j'ai dit, Seigneur, merci parce que tu es là, effectivement, tu nous gardes. Lorsque nous étions dans les Alpes de Haute-Provence, une région par ailleurs excellemment très belle, nous disions toujours à ceux qui conduisaient les véhicules, soyez très prudents parce que la route était toujours très serpenté, très serré, avec des vides à droite et à gauche très profonds. Et puis un jour, un animateur m'appelle en me disant, écoute, ne panique pas Bertrand, mais une des voitures vient de se renverser, de faire un tonneau. Une voiture dans laquelle se trouvaient deux animateurs et un enfant. Et vous savez, entre le moment où ils vous disent, mais ne t'inquiète pas, il n'y a rien qui s'est passé, ils ont rien, ils sont indemnes, et le moment où il vous dit « la voiture vient de faire des tonneaux », je peux vous garantir, votre cœur il tourne qu'une fois. Vous avez l'impression que vous avez un cœur qui s'est triplé, quadruplé à l'intérieur. Et lorsque j'ai regardé les photos de la voiture qui venait de faire des tonneaux et de s'arrêter 10 mètres avant le précipice parce que les freins de la voiture venaient de lâcher, j'ai vu l'état de la voiture. On avait l'impression, à part une égratignure sur le côté, que les anges, pendant que la voiture faisait un tonneau, l'avaient gardé et porté. Et je disais, Seigneur, merci parce que oui, le diable rugit. Oui, il essaye de détruire l'œuvre que le divin patron nous demande de faire. Mais Dieu est toujours vainqueur. Et le diable, et je me réjouis de pouvoir lui dire, fait une œuvre qui le trompe. Alléluia. Le deuxième point que j'aimerais aborder, qui se trouve dans le contrat de Dieu pour que nous soyons ses ouvriers, c'est que là où vous voulez devenir des ouvriers, il faut également aller là où se trouvent les brebis perdues. Voilà ce qu'il est dit dans le texte de Matthieu chapitre 9, verset 35. Voilà ce qu'il est dit. Il parcourait les villes, les villages, enseignant dans toutes les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité, voyant la foule. Là où se trouvait Jésus qui annonçait la bonne nouvelle de l'évangile, là se trouvait la foule. Pourquoi ? Parce que quand Jésus annonçait la bonne nouvelle de l'évangile, se produisaient des signes, des prodiges et des miracles. Et nous avons besoin, pour que la parole de Dieu soit accompagnée par des signes, des prodiges et des miracles, d'avoir le désir de sortir là même où Dieu nous a placés pour aller à la rencontre de ces personnes qui sont tellement désespérées. L'autre jour, je lisais un texte, et je le partageais également hier, dans Marc 4, la parabole du semeur que vous connaissez tous. Et lorsque j'avais terminé de lire ce texte que je connaissais, que j'avais lu plusieurs fois, une question me vint et je dis, Seigneur, mais ce texte, c'est une mauvaise nouvelle dans ta parole qui est une nouvelle tellement excellente. Parce que lorsque je prends le pourcentage de personnes pour qui la parole de Dieu accomplit son œuvre dans les cœurs et qui porte du fruit, je ne vois là dans ce texte qu'une terre sur quatre. Et alors ma question, c'était, Seigneur, mais puis-je changer ce que dit la parole de Dieu? Puis-je changer ce pourcentage de 1 sur 4? Puis-je, en étant un ouvrier entre tes mains, changer ce pourcentage, ce paramètre que tu donnes? Et alors Dieu m'a clairement répondu en me disant que la parole de Dieu ne pouvait pas être changée, que ce pourcentage ne pouvait pas non plus l'être, Par contre, ce qui pouvait être changé, c'est d'aller auprès du lieu où se trouvent les foules, les désespérés, les malheureux, d'obéir à ce texte que Dieu m'avait donné il y a bien longtemps de cela, dans Ésaïe 54, « Élargis l'espace de ta tente », et de permettre que, face à ce texte et ce pourcentage qui ne peut pas changer, je puisse en tout cas changer le 1 sur 4 en 2 sur 8, en 4 sur 16, en 8 sur 32, en 16 sur 64, etc., etc. Et au travers de cela, Dieu m'a clairement montré que ce qui était important, c'était là où il nous a placés, d'aller auprès de cette foule souffrante où nous nous trouvons, qui que nous soyons. Voyez-vous, je suis en particulier, lorsque je lis la parole de Dieu, encouragé parce que Jésus était un professionnel de la multiplication. Et voyez-vous, je crois que Jésus, lorsqu'il nous parle dans sa parole, veut non seulement au travers de la prière qu'il demande de faire à chacun de nous et à chacun de ses disciples, multiplier les disciples, mais il veut également multiplier les sauvés. Et il désire que les perdus soient sauvés. J'aimerais en particulier peut-être ouvrir une parenthèse sur ceux qui font partie des groupes de maison, ou alors des groupes connexion, qui sont les groupes de maison jeunes. Et j'aimerais vous dire que là où Dieu vous a placé, il vous a placé pour que vous puissiez être des témoins là même où vous êtes pour ces personnes qui se trouvent dans vos quartiers. Et j'ai eu déjà l'occasion d'entendre « mais on est trop nombreux, mais la maison est trop petite, on peut plus accueillir ». Et malheureusement, ça a freiné l'évangélisation. Pourquoi ? Parce que le côté place a pris une place plus importante que le désir de voir des perdus être sauvés. J'aimerais vous dire que ce qui est important, c'est que les âmes, les vies soient sauvées. Et qu'importe si vous n'avez plus de place, je prie le Seigneur pour qu'il lève des ouvriers afin que les cellules se multiplient. Mais je crois de tout mon cœur que pour que les cellules se multiplient et que les ouvriers se lèvent, il faut au préalable voir les perdus être sauvés, se multiplier. Mais priez pour que vos lieux se remplissent de personnes perdues qui entendent la bonne nouvelle de l'Évangile. Et alors, Dieu s'occupera, parce que vous prierez pour cela, de lever des ouvriers qui permettront alors à vos groupes de maison, aux groupes connexion, de se multiplier et de se multiplier. Je lisais dans un texte qu'au musée des sciences et de l'industrie de Chicago, il se trouvait là un damier. Et alors, ils avaient posé sur la première case du damier un grain de riz. Et chaque fois, ils multipliaient ce grain de riz. Deuxième case, 2 grains de riz. Troisième case, 4 grains de riz. Cinquième case, 8 grains de riz. Etc., etc., etc. Et puis, il est arrivé un moment que, au bout de la 8e, 9e case, eh bien, il y avait tellement de grains de riz qu'ils débordaient de partout. Mais là, dans ce musée des sciences, il était possible d'appuyer sur un bouton et de voir s'afficher en lettres lumineuses le nombre de grains de riz qui se trouvaient sur la 64e case. Et voilà ce que donnait la multiplication des grains de riz. Sur la 64e case se trouvait l'équivalent de 153 milliards de tonnes de riz. Autrement dit, plus que la récolte mondiale durant les 1000 dernières années. Ça marche, la multiplication. D'ailleurs, je me réjouis lorsque je lis l'histoire de la multiplication des pains et des poissons, que Jésus n'ait pas eu l'idée de faire juste une addition, sans quoi cela n'aurait pas suffi à nourrir les 5000 personnes présentes, sans les femmes et sans les enfants. Mais Jésus est le Jésus de la multiplication. Et nous devons prier afin que, eh bien, lorsque nous allons rencontrer les foules, Jésus multiplie au milieu d'elles les sauvés. Troisième point, et je le tire également de ce texte, recevez de la compassion pour les brebis n'ayant point de berger. Il est dit dans ce texte que Jésus fut ému de compassion. Être un ouvrier dans la moisson n'a rien à voir avec quelque chose de mécanique. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce texte dans le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 5, verset 14, où il est dit « Car l'amour de Christ nous presse ». Et quand c'est l'amour de Christ qui nous presse, alors nous recevons de sa part la capacité d'avoir compassion des foules qui se perdent. J'ai fait le constat suivant l'autre jour, c'est que Jésus, plus il avançait dans son ministère, plus parce qu'il rayonnait dans ce qu'il était, dans ce qu'il faisait, attirait les foules. Et j'ai eu le sentiment que sa compassion est toujours restée intacte face aux foules qu'il rencontrait. Et j'ai dit, Seigneur, moi j'ai l'impression que quand on rencontre des foules, plutôt que de recevoir de ta part la compassion pour ces foules, on a des fois l'impression que les foules nous énervent. Puis-je vous citer quelques foules qui risquent de nous énerver? Tiens, par exemple, quand on fait la queue à la caisse, dans une grande surface, je faisais le constat avec mon épouse l'autre jour que nous attrapions toujours les caissières, apprentis caissières, et que souvent nous nous précipitions dans les foules de files les moins nombreuses, mais que face aux foules qui se trouvaient à côté de nous beaucoup plus nombreuses, nous étions les derniers à partir. Et ça, des fois, ça nous énerve. Mais pourquoi ne pas voir une opportunité pour témoigner? Pourquoi pas dire, Seigneur, mets-moi de la compassion pour les foules d'attente devant les caisses? Quelle est notre attitude? Est-ce qu'on prie pour ceux qui sont devant nous? Pour ceux qui sont derrière? Et puis peut-être également la foule de violence qui est de plus en plus nombreuse, et on l'a entendu tout à l'heure, face à ce qui s'est produit hier soir dans le quartier, se dresse devant nous. Devenons-nous indifférents à cette violence? Ou est-elle juste insupportable pour nous dans le sens où Seigneur touche ces personnes qui pour beaucoup manifestent leur souffrance au travers de leur violence? J'ai regardé la définition du mot compassion. Voilà ce qu'il est dit, la compassion est une vertu par laquelle un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui. Et j'aime la deuxième partie de la définition, et poussé à y remédier. Je lisais un texte dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, voilà ce qu'il dit. C'est David, avant qu'il n'aille affronter Goliath, rencontre Saül. Et voilà la discussion qu'ils eurent ensemble. Saül essayant de le décourager. 1 Samuel, chapitre 17, versets 33-36. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. » Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Écoutez ce qui se passait. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Il n'est pas dit que parce que la brebis dans la gueule du lion ou de l'ours était déjà à demi morte ou à moitié mutilée, que David s'est découragé et a laissé le lion et l'ours l'emporter. Mais il est dit, et parce que je croyais que David avait un soin particulier pour les brebis du troupeau de son père, il est dit ceci, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et voilà ce qu'il déclare haut et fort. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Est-ce que l'amour de Dieu nous presse à tel point que notre seul désir soit de voir les perdus être sauvés? En début de semaine, lorsque j'étais dans le quartier, j'entendais ce que beaucoup ont entendu. Cette femme au coteau qui s'est pendue dans sa baignoire avant de tuer ses deux enfants de 7 ans et 12 ans. Et quand j'ai entendu ça, excusez-moi, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour permettre à cette femme d'entendre parler de toi? Pour lui permettre de te découvrir? Comment ma lumière aurait pu rayonner encore sur cette femme pour qu'elle entende qu'il y a une solution à son désespoir? Nous avons eu l'occasion, dans le cadre de nos camps, de nos colos, de vivre des choses extraordinaires. La gloire de Dieu s'est manifestée. Des enfants, alors que nous étions en période de Ramadan, et je tiens à le souligner haut et fort, sont venus par dizaines pour confesser le nom de Jésus et pleurer parce que touchés par la personne de Jésus. Mais autant nous avons vu la gloire de Dieu, autant nous avons vu plus que jamais la souffrance se manifester. J'ai eu l'occasion, durant les colos, les enfants de 6-12 ans, de voir des enfants hurler, faire des dépressions, crier, nous insulter, nous tabasser, taper dessus de toute leur force, manifester leur souffrance au travers de cela. Mais pourquoi ressentions-nous cette souffrance? Parce que entre les phrases d'insultes se trouvaient des phrases du style « Je veux mourir, j'ai plus envie de vivre ». Et puis cette même souffrance s'est manifestée au travers des ados, non pas par des cris, mais par des souffrances physiques. Les ados, cette année, nous ont, pour quelques-uns en tout cas, fait des crises d'angoisse. Tellement graves que nous avons dû appeler les pompiers, parce que certains, à cause de leur crise d'angoisse inconsciente ou non, n'oxygénaient plus leur cerveau, et donc tombaient dans des semi-comas, ne trouvant plus d'air. Ça fait peur. C'est le résultat de jeunes qui refusaient intérieurement de rentrer dans le contexte dans lequel ils se trouvaient. Et voyez-vous, lorsque vous vivez des temps comme ça, ce qui fait mal, c'est de se dire qu'il faut de nouveau les laisser aller dans leur contexte, prier pour que des ouvriers se lèvent, afin d'être des témoins dans les groupes de maison, dans le travail qui se fait dans les quartiers et dans tous les domaines dans lesquels Phare FM et d'autres domaines travaillent, afin que ces perdus entendent l'Évangile. Et je me réjouis de cette phrase qui parle de multiplication, où Dieu dit là où le mal abonde, la grâce surabonde. Et dans la surabondance de la grâce de Dieu, je vois la multiplication de sa grâce. Mais est-il possible que des ouvriers conscients du combat qu'il y a à mener, conscients que pour être revêtus de la puissance de Dieu, il leur faut sortir là où se trouvent les désespérés, remplis également de la compassion de Dieu, est-il possible que des ouvriers se lèvent? J'ai aimé ce film, La liste de Schindler, pour ceux qui l'ont vu. Mais j'ai aimé en particulier la fin de ce film où ce chef d'entreprise avait donné tous ses deniers, tout son argent, tout ce qu'il avait pour acheter des juifs qui devaient être déportés. Et à chaque juif qu'il achetait avec les deniers de son entreprise, plus même en vendant son entreprise avec chaque denier qu'il avait, il achetait un nom qu'il notait sur une feuille. Et là se tenaient d'innombrables personnes qui, grâce à cet homme, ont été empêchés d'être emmenés en déportation. Tu veux être ouvrier du Seigneur? Moi, je dis, Seigneur, je veux être ton ouvrier. Mais je sais que je ne peux pas être un ouvrier au-delà des conditions que tu cites ici. Et que pour être un ouvrier efficace dans ta moisson, alors il va falloir payer le prix. Seigneur, suis-je prêt à payer le prix? Suis-je prêt à faire partie de ces ouvriers que tu peux utiliser efficacement? Je termine en vous disant que durant ce camp, ces colos, il y a eu beaucoup de joie. J'ai vu également des jeunes qui, bien qu'ils sont en démarche, ont été utilisés par Dieu pour être des ouvriers déjà dans la moisson du Seigneur. Vous avez vu tout à l'heure dans le film que nous avons fait un freeze. C'est quoi un freeze? Un freeze, c'est un arrêt sur image. Et alors pendant la colo, nous avons décidé de faire des freezes. Donc à un moment précis, face à une phrase précise, nous avions fait des arrêts sur image. Je vous donne un exemple. Chaque jour, chaque thème avait une phrase clé. Et l'une de ces phrases était « Dieu t'aime ». Et alors, à un moment, nous avons dit aux enfants « Dieu t'aime ». Et quand nous disions « Dieu t'aime », hop, ils devaient s'arrêter et plus bouger. Et quand nous redisions « Dieu t'aime », ils devaient de nouveau bouger. Et alors, ce que nous avons proposé aux enfants de friser dans la rue. Alors, quand nous sommes allés à Monaco, ou alors sur la promenade des Anglais à Nice, c'est très joli, les enfants se dispersaient dans la foule, et puis d'un coup, nous crions la phrase « Dieu t'aime ». Et puis, au moment où nous crions « Dieu t'aime », les enfants au milieu de la foule s'arrêtaient et ils bougeaient plus. Alors c'est vrai que les passants se demandaient un peu qui nous étions. Et puis à un moment, nous avons dit aux enfants, maintenant on va aller plus loin. Le thème, c'était « Encourage quelqu'un ». Et donc la phrase freeze, c'était « Dieu t'encourage ». Et quand on disait cette phrase, à la fin du freeze, on redisait cette phrase, les enfants devaient encourager des adultes qui étaient à côté d'eux, qu'ils ne connaissaient pas. Et alors là, dans la rue, à Monaco, à Nice, nous avons lancé des phrases comme celle-ci, et quand les enfants avaient fini de friser, ils encourageaient les gens en leur disant des phrases qui leur faisaient du bien. Je crois de tout mon cœur que non seulement ces enfants vont être tirés de la gueule du lion et de l'ours, qui ont pour nom dépression, rejet, famille disloquée, quartier dans lequel ils habitent. Nous allons peut-être les arracher quelque peu amputés d'un membre, mais Dieu les utilisera comme des ouvriers dans sa moisson. Que Dieu nous utilise comme des ouvriers, et retirer les perdus pour les amener vers toi à te rencontrer et à te connaître. Et n'y a-t-il pas de plus grande joie que de voir un perdu être sauvé ? Ferme-moi un instant les yeux.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
5h moins 20 passés, c'est toujours Phare FM qui vous accompagne dans la nuit autrement. Je vous souhaite un bon réveil, une excellente journée ce lundi 16 juin. Et on poursuit en musique, tout en douceur, Israel is over the rainbow.
À la zone, ils ont voulu rentrer dans ma tête. Manolo, jamais solo. Viens retrouver la paix.
Sois incertain, tu vas comprendre mon sentiment. Tu ne pourras jamais voir ce monde-là autrement. Si t'avais vu ce qu'est la vie, quand c'est Jésus qui l'a dirigé. Depuis le départ, il est là, même quand on me refoulait. Je fais plus le grand écart, papa, je suis rentré à la zombie.
Sur Phare FM 4h47, la radio autrement qui vous accompagne. Je vous souhaite encore un excellent réveil, une très très belle journée et aussi une excellente semaine. Je vous propose de poursuivre cette en musique. Allez, le réveil va être un peu moins difficile avec Pierre Garnier qui nous interprète Ce qui me bat. Et moi, ce qui me bat, c'est que je suis encore avec vous jusqu'à 5h et je vous propose de ne pas manquer votre prochain rendez-vous. Hommes et femmes, mode d'emploi, à tout à l'heure.
Un peu de moi, juste là. Comme si j'avais attendu ça toute ma vie, sans le dire, sans jamais oser rêver de ce qui m'attire. Je ne sais pas pourquoi moi, mais je suis là, et je ne veux plus jamais quitter cet endroit. Un peu de moi, un peu ma foi, un peu de vous qui m'écoutez le soir. Et qu'on me laisse tout essayer, tant que dans le miroir je me reconnais, j'en ferai des erreurs et des déçus, ça je le sais. On voulait pas d'être moi, je cherche encore à savoir ce qui me va, ce qui me va. Un peu de moi, un peu ma foi, un peu de vous qui m'écoutez le soir. Un peu de vous qui m'écoutez le soir. Un peu de moi, un peu ma foi, un peu de vous qui m'écoutez le soir. Un peu de nous, même quand je doute, un peu la vie que j'ai toujours voulu avoir.
Hommes et femmes, mode d'emploi avec Eric et Rachel Dufour, en partenariat avec The Watchers.
Les souffrances causées par la pornographie, notre thématique aujourd'hui.
Je voudrais vous rappeler que le sexe, en dehors du mariage, n'est pas sans danger. Il y a vraiment une zone de danger parce qu'on connecte émotionnellement et spirituellement avec quelqu'un d'autre, et même physiquement, que notre propre conjoint, que ce que Dieu avait prévu pour nous.
Il faut se souvenir de plusieurs choses. Quand on regarde par exemple à la pornographie, déjà, c'est que les acteurs et les actrices sont des êtres humains à part entière. Ils ont une âme, un esprit, un corps, ils souffrent, Christ est mort pour leurs péchés aussi, donc ce sont des êtres vivants. Et évidemment que quand on se connecte avec de telle personne d'une même au travers d'un écran ou d'un magazine ou d'une photo quelconque. On connecte, comme Rachel vient de le dire, au niveau de l'âme, de l'esprit aussi. Mais on entend souvent, mais ça ne fait de mal à personne. Bien si, ça peut faire du mal, et même ça en fait, et ça vous en fait à vous aussi. Et je vais vous parler de quelque chose peut-être dont vous n'avez jamais entendu parler, qui est assez récent, mais qui apparaît chez les jeunes hommes qui sont de forts consommateurs de pornographie. C'est quelque chose que l'on appelle la dysfonction érectile induite par la pornographie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce mot bizarre ? Ça veut simplement dire que maintenant, de plus en plus de jeunes hommes ne sont plus capables d'avoir d'érection en face d'une véritable personne, en face d'une femme. Au moment d'avoir un rapport physique, eh bien, leur sexe ne réagit plus parce que le cerveau est uniquement habitué à avoir une stimulation virtuelle au travers d'images. Et là, une personne réelle n'est plus dans la capacité de leur susciter ce genre d'érection, ce genre de réaction qui est naturelle au corps humain. Donc ce n'est pas une mince affaire, parce qu'il y a maintenant de jeunes hommes qui sont en pleine force de l'âge et qui ne peuvent pas avoir de rapport sexuel à cause de cela. Oui, la pornographie, c'est dangereux. C'est dangereux à plein de niveaux. C'est évidemment dangereux pour ceux qui la pratiquent, parce que ça peut créer des addictions, toutes sortes d'addictions, et même des dysfonctionnements physiques. Par contre, il est important pour nous de terminer en soulignant que oui, on peut vaincre la pornographie. Elle peut être abandonnée, on peut être victorieux, marcher dans une vie de victoire de plus en plus grande, jusqu'à pouvoir dire « j'en ai été complètement délivré, j'avais ça dans mon passé, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas ». Donc on vous encourage à trouver des groupes de parole, particulièrement on encourage les responsables d'église à créer de tels groupes de parole sans jugement, d'une manière confidentielle, mais où des jeunes hommes ou moins jeunes qui ont des difficultés avec la pornographie pourront s'exprimer librement, sans peur d'être jugés ou condamnés ou rejetés, mais en trouvant vraiment de la redevabilité et de l'aide pour sortir de leurs problèmes en étant victorieux.
C'était Hommes et Femmes, mode d'emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ericrachel.com.
They said you have me wrapped around your finger like the ribbons that you wear in your hair. Maybe 'cause when I see your little fingers holding on to mine, I don't have a care. But you got me buying you posing dresses. Oh, what a beautiful mess that this is. I think I'm in love. She's 2 foot, 3 eyes, blue and my heels over my head, or better yet, she got me moving to the beat of her drum. And if love were time, I would spend all my just living inside her world, 'cause she's daddy's baby girl. Attention, not to mention you're my very first child. It's true, I'm spending nearly half an hour making faces to get you a smile, yeah. You got me doing these silly little dance moves. I hope they don't make it onto YouTube. I think I'm in love. She's 2 foot, 3 eyes, blue and green. I just can't get enough. She got my heels over my head, or better yet, she got me moving to the beat of her drum. And if love were time, I would spend all my days living inside her world, 'cause she's daddy's baby. Soon she'll crawl, then walk, then talk. She's here for a while. Then sweet 16, and like her dream, she's down. Three eyes, blue and green, I just can't get enough. She got my heels over my head, or better yet, she got me moving to the beat of her drum. And if love were time, I would spend all my just living inside her world, 'cause she's daddy's baby girl. She'll always be my world.
she's daddy's baby girl.
Jimmy Needham, Daddy's Baby Girl sur Phare FM. Dans quelques minutes, la nuit autrement s'achève. Eh bien oui, c'est le matin et c'est toujours bonjour chez vous que vous retrouvez à partir de 5h et puis bien sûr innocent à 5h30. Pour ma part, je reviens à minuit. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon lundi. En avance, une très très bonne semaine avec Phare FM et je vous laisse avec Calogero et Ibrahim Malouf. Paris qu'on s'aime encore. À très bientôt.
Ensemble on marchait, ensemble on dansait sur les mêmes plats. Nos vies, nos histoires, dans la grande histoire, sur les mêmes points. Ensemble nos fêtes, victoires et défaites, dans les mêmes bras. Et si d'autres ferveurs nous chantent la peur, on chantera pas, non, on chantera pas. Paris qu'on s'aime encore. Ensemble on jurait qu'on ne serait jamais ce qu'on ne veut pas. Ensemble on s'aimait et on le criait sur les mêmes toits. C'est les mégaphones, nous diviser nous mène vers on ne sait quoi. Ensemble tu verras, on résistera d'une même voix. Never.